Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Michel Pouzol, ancien député, auteur du livre « La pauvreté, une fatalité » aux éditions Christine Bonneton. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Michel Pouzol, vous avez fait vous-même l'expérience de la pauvreté, des conditions de logement très difficiles, un cabanon dans une forêt, l'impossibilité de se chauffer convenablement parce qu'un radiateur coûtait 25 euros. Tout cela, vous le racontez dans le livre avec les 1000 difficultés auxquelles on est confronté quand on est face à l'administration et qu'il manque une pièce à un dossier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler par quoi vous êtes passé avant de devenir député de l'Essonne et avoir été le seul parlementaire à avoir connu personnellement la pauvreté?
La première chose que je dirais, c'est que je me suis rendu compte, notamment en écrivant ce livre, que j'avais toujours été dans une situation de grande précarité, sans m'en rendre compte tout à fait, de par des origines très modestes, auvergnates, fils d'ouvriers, petit-fils de paysans, et que on avait des fins de mois qui étaient toujours un peu difficiles, mais moi, j'avais beaucoup d'ambition et de rêves, donc je poursuivais mes rêves et je regardais pas ce que ça coûtait, entre guillemets, dans la vie quotidienne. On peut manger des sauces à la brique, des briques à la sauce caillou, comme on disait chez moi. Quand on poursuit un projet, moi j'avais des projets, je voulais faire plein de choses bien, je voulais être journaliste, je voulais être cinéaste, je voulais faire plein de trucs comme ça. Donc voilà, donc j'ai fait ma vie un petit peu comme ça, en tirant le diable toujours par la queue, mais en arrivant à peu près à construire une vie un peu en marge, mais qui correspondait à ce que je voulais. J'ai touché du bout du doigt mes rêves de cinéma, j'ai fait quelques films, et au moment où il faut passer à la vraie vie, c'est-à-dire au cinéma de long métrage, etc., les choses se sont un peu emballées, sont devenues plus difficiles. Et je me suis retrouvé donc avec mon épouse, que je vais rencontrer, près et ses enfants, en fin de droit, sans pouvoir payer le loyer qu'on avait dans un petit appartement à Paris, et donc obligé de le quitter, puisque c'était pas très grand, mais on pouvait pas payer. Et on s'est retrouvé dans un petit cabanon dont ma femme avait hérité de son ancien compagnon qui était décédé, qui était une petite cabane un peu avec une petite caisse en dur et deux espèces d'algéco qui faisaient chambre, mais qui était une cabane de week-end pour les apéros entre copains, les fêtes l'été, vous voyez l'ambiance où on est presque en camping et où ce manque de confort là n'était pas très très important, sauf que là ça faisait 5 ans que c'était à l'abandon et que nous y sommes allés à 4 pour vivre dans 20 mètres carrés et donc dans des conditions très difficiles, en fin de droit, sans aucun revenu et dans des conditions quotidiennes extrêmement dures, puisque là les fins de mois commençaient le 5 et qu'il fallait compter chaque pièce jaune à partir du 20. Et nous y sommes restés presque 2 ans, voilà.
Ce livre paraît 2 mois avant l'élection présidentielle. Michel Pouzol, la France compte 10 millions de pauvres. La crise sanitaire a accentué cette pauvreté. On a tous en tête les images de centaines de personnes faisant la queue pour recevoir de l'aide alimentaire. Il faut que cette question de la pauvreté soit au cœur de cette élection présidentielle.
Alors, oui, bien entendu, il faut qu'elle soit au cœur, mais je dirais même qu'elle devrait être le sujet central et premier. Tant le phénomène est important, mais surtout s'aggrave. Ce que j'essaie de montrer un peu dans ce livre, à travers mes exemples personnels bien entendu, mais aussi mon parcours de député, et ce que nous avons fait sous la majorité de François Hollande et puis ce qui s'est fait ensuite, c'est surtout que la volonté politique bizarrement est extrêmement absente réellement pour traiter le problème de la pauvreté à sa dimension réelle. C'est-à-dire qu'on part toujours de ce qu'on pourrait faire, jamais des besoins réels qu'on a en face de nous. Et on voit bien ce qui s'est passé notamment pendant le Covid avec les étudiants. On voit bien que on aurait très bien pu décider d'un quoi qu'il en coûte pour les étudiants en leur versant un RSA jeune, sinon pas le droit au RSA par exemple pour les 18-25 ans. On aurait pu le faire pour éviter cette très grande précarité qui les a frappés, on ne l'a pas fait. Donc il y a quelque part à la fois une méconnaissance des mécanismes de ce qu'est la pauvreté réellement, de sa dimension, vous l'avez dit, 10 millions de Français, faites le calcul, ça doit faire 16 ou 17%, c'est quand même extrêmement important. Pour faire un peu d'ironie, je dirais c'est plus que les espoirs de vote de la plupart des candidats à l'élection présidentielle. Et pourtant, on ne sent pas une prise en compte globale du problème. Alors, on va avoir des propositions sectorielles. Yannick Jadot a des idées très extrêmement intéressantes, mais Jean-Luc Mélenchon aussi. On voit que Anne Hidalgo a quelques idées, que même la droite veut toucher sur cette catégorie. Mais il n'y a pas une prise en compte globale, réelle, à l'échelle de ce qu'est ce phénomène et de ce qu'elle coûte. Non seulement à ceux qui en subissent les conséquences premières, mais ce qu'elle coûte à l'ensemble du pays. Parce que c'est un gâchis financier, mais c'est aussi un gâchis d'énergie, un gâchis de potentialité. Moi, je crois que j'ai pu en faire la preuve. On peut être dans la plus grande précarité, on peut vivre au RMI, on peut vivre dans des conditions insalubres et honnêtement intolérables dans une société comme la nôtre. Et puis avoir assez de capacité ou de compétences pour un jour finir député et défendre des grandes idées ou des choses concrètes face pour le bien de la nation. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que pour plein de gens, la pauvreté est un état qui va durer tout au long de leur vie. Pour d'autres, c'est un passage dans leur vie. Et dans tous les cas, c'est une perte de richesse pour l'ensemble de la société.
Michel Pouzol, vous dénoncez l'obsession du contrôle des plus pauvres dans votre livre. Pour vous, la vraie question aujourd'hui, c'est plutôt celle du non-recours aux aides sociales. Est-ce qu'il faudrait que ces aides soient versées de façon automatique, que l'ensemble des aides soient regroupées?
C'est un sujet extrêmement complexe et on touche au cœur même, je trouve, de l'incapacité des politiques sur la pauvreté à être réellement efficaces. Oui, le vrai problème, c'est le non-recours. Je le dis dans le livre, je prends l'exemple de ce qu'on appelait le RSA d'activité, qui correspondait à un complément de salaire pour les plus petits salaires en France. Eh bien, c'était un dispositif où le taux de non-recours était de 70%. Le RSA, on estimait que c'était à 30% de non-recours, c'est-à-dire des gens qui y avaient droit et qui ne le demandaient pas. Donc ça, effectivement, c'est une vraie question. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons. Un, parce que les dispositifs sont complexes, que les dossiers sont durs à remplir. Deux, parce que les gens ne les connaissent pas forcément, ne connaissent pas forcément leurs droits. Et trois, parce qu'il y a un phénomène de stigmatisation très grande à faire la demande d'aide de l'État. Mais en même temps, cette automatisation et cette focalisation sur le non-recours, elle tient dans le discours politique global un rôle très ambigu, puisque on a de plus en plus de politiques qui disent finalement on a tout bien fait, finalement on a mis les dispositifs en place, finalement on fait largement suffisamment pour ces gens-là, mais le problème c'est qu'ils n'y ont pas recours. Or, l'autre volet du non-recours, c'est que même si vous y aviez recours, ça ne suffirait pas. C'est-à-dire que les dispositifs actuels ne sont pas suffisants pour lutter contre le problème du mal logement. La Fondation Abbé Pierre a rendu il y a quelques jours son rapport. Lutter contre l'exclusion du marché du travail, lutter contre l'exclusion scolaire, etc. Donc, oui, le non-recours, c'est une bataille fondamentale, mais elle n'est pas suffisante en soi.
Et Michel Pouzol, certains candidats à l'élection présidentielle dénoncent la fraude sociale. Les mêmes estiment qu'il faut que le travail paie plus que les aides sociales. Ça, c'est un sujet qui vous énerve, si je puis dire.
Oui, ça m'énerve parce que je vais parler un peu vulgairement et vous me le pardonnerez, mais des fois, il faut se mettre un peu en colère. Ça m'énerve parce que c'est des conneries, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, toutes les études sont là, existent. J'en reprends quelques-unes dans mon livre. Ça prouve que non, on ne vit pas mieux avec des aides sociales qu'au travail. C'est faux. C'est une idée fausse. Totalement ridicule. Alors effectivement, on peut trouver quelques cas où vous allez avoir des gens qui travaillent à temps partiel et qui effectivement sont dans des conditions très difficiles. Mais globalement, on vit, Dieu merci, mieux en travaillant que sans travailler. Mais la problématique nouvelle de notre société, c'est que travailler, même à temps plein, ne suffit pas forcément à vivre bien. Et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que normalement, quand vous travaillez à temps plein, pour n'importe quel emploi, vous devriez vivre bien, normalement. Ce n'est plus le cas. Donc, effectivement, il y a cette confrontation entre ceux qui ont l'impression qu'ils font énormément d'efforts et qui disent, mais eux, ils font rien et ils gagnent pareil. Donc, ils ne gagnent pas pareil. Donc, ça, c'est une première chose. Quant à la fraude, les fraudes sociales, elles sont extrêmement minimales dans tous les chiffres que l'on peut recouper. Elles sont d'abord, quand on parle de fraude sociale, pour le savoir de quoi on parle, elles sont d'abord très souvent du côté des employeurs, c'est-à-dire on parle de fraude sociale quand on ne paye pas ses cotisations sociales, quand on ne paye pas ses charges, quand on prend des gens noirs, ça c'est la fraude sociale et aux prestations. Et puis, elles sont alors là pour le coup, sans commune mesure avec l'évasion fiscale qui se compte en milliards d'euros chaque année et qui sont un crime contre la société, enfin il faut le dire. Donc oui, ça me met en colère et je me dis parfois que on pourrait rendre plus utile l'argent qu'on met dans le contrôle pour le mettre dans l'accompagnement. Voilà, ça serait à mon avis plus pertinent de le faire dans ce sens-là. Mais bien entendu, en politique, quand on veut planquer, quand on veut cacher un peu ses propres dysfonctionnements ou ses propres faillites, et ben c'est plus facile de stigmatiser ceux qui ne font rien que de se remettre soi en cause alors que nous, on est dans une position beaucoup plus tranquille.
Michel Pouzol, il y a un sujet dont vous êtes l'un des rares à parler, c'est la façon dont on oblige les pauvres à raconter des dizaines de fois leur histoire, ce qui crée un sentiment d'humiliation. Vous parlez de stigmatisation. Est-ce que le parcours du combattant pour obtenir des aides serait facilité si les personnes avaient affaire à un seul interlocuteur, s'il y avait finalement plus de coopération entre les services qui s'occupent d'une même famille ?
Mais bien entendu, je pense que l'idée d'un dossier unique et de faire circuler un dossier plutôt que des familles, ça paraît presque une évidence, ou en tout cas c'est du bon sens. Effectivement, je raconte dans mon livre comment vous avez en face de vous l'assistante sociale de la maison des solidarités départementales, l'assistante sociale du centre communal d'action sociale, l'assistante sociale de EDF, l'assistante sociale de la CAP, l'assistante sociale pour un logement, enfin, et donc vous n'arrêtez pas de passer de guichet en guichet en racontant toujours votre histoire. D'ailleurs, faut bien prouver que vous êtes pauvre. Hein. Donc déjà, c'est vivre dans la pauvreté, c'est déjà pas ce qui est le plus formidable comme expérience. Moi, j'ai vécu dans la pauvreté longtemps. J'en suis sorti un peu. Je vous garantis, la différence, elle est fondamentale. Donc oui, vous passez votre vie à ressasser cette même histoire, à prouver que vous êtes un pauvre, plutôt méritant, parce que ça aussi, il faut mieux être un pauvre méritant. Je sais pas ce que c'est qu'un pauvre pas méritant, mais bref. Oui, c'est une façon de vous enfermer toujours dans le même schéma, dans votre propre humiliation, et vous finissez par l'intégrer. C'est-à-dire, vous finissez par être simplement votre histoire. Votre histoire, qui est l'histoire d'un échec, en général. Quand vous êtes là à chercher, comme je raconte dans le livre, 25 euros pour acheter un radiateur, c'est pas que vous avez réussi grand chose, hein, vous avez la sensation, vous êtes quand même totalement au bord de la route et à côté de la plaque par rapport aux idéaux ou à ce qu'on vous montre de la société.
Michel Pouzol, cela va très loin, cette stigmatisation, puisque vous dénoncez aussi la violence froide qui accompagne l'octroi de certaines aides sociales. Vous parlez de ce qui vous est arrivé. On vous a menacé implicitement de vous retirer vos enfants.
Alors, c'est moi qui l'ai pris comme ça, la menace. C'est-à-dire que la première aide qu'on ait jamais reçue, avant même qu'on arrive à déclencher le RMI, c'était l'ancêtre du RSA, c'était une aide du Conseil Général de l'Essonne. L'intitulé était « Soutien à l'enfance en danger ». C'était donc au titre du soutien à l'enfance en danger qu'on nous versait une petite somme. Et donc, quand je me souviens avoir reçu, je me suis dit, donc, nos enfants sont en danger, et donc c'est nous qui les mettons en danger. De fait, c'est la situation dans laquelle on est les amis qui sont en danger, et bien entendu qu'à ce moment-là, la grande terreur, ça a été de dire, bon, bah s'ils viennent voir où on habite, ils vont nous prendre les enfants, quoi. Ils vont nous les enlever, ils vont pas les laisser avec nous, ce à quoi je pense que ma femme n'y aurait pas survécu, et moi sans doute non plus. Donc oui, c'est en voulant bien faire, l'enfer est pavé de bonnes intentions, vous voyez ce que je veux dire. Et oui, ça a été un choc très fort de se dire, alors on risque une surpeine, et en même temps, je serais tenté de dire, heureusement que l'on veille à ce que les enfants ne soient pas en danger dans ces situations-là. Alors moi j'ai la chance, mes enfants m'ont dit un jour, ils revenaient de l'école, et, on leur avait posé la question, c'était un truc de d'instruction civique, de savoir s'ils étaient, s'ils s'estimaient riches ou pauvres. Et je me rappelle que mon fils avait répondu, j'ai répondu qu'on était riches. J'ai dit, mais pourquoi t'as répondu ça? C'est complètement idiot. Il dit, non, on arrive encore à faire du sport. Dès qu'il y a un DVD de Disney, tu nous l'achètes, et puis on fait des raclettes. Et là, je me suis rendu compte que eux ne le vivaient pas du tout. La situation dans laquelle on était, très dure, eux en étaient finalement relativement protégés. Mais cette angoisse, effectivement, de se dire, oula, on va nous prendre les enfants parce qu'on est dans une situation tellement terrible qu'on ne mérite pas de les avoir, bien sûr que ça crée de l'angoisse. Mais toutes ces angoisses-là, elles se mêlent les unes aux autres en permanence quand vous êtes dans une situation de pauvreté comme ça. Et je crois aussi que si on n'attaque pas ces problèmes-là globalement de manière politique, c'est aussi parce qu'on a une méconnaissance totale de ce que vivent, ou extrêmement partielle de ce que vivent les gens au quotidien, quand ils sont au fond du gouffre.
Alors justement, vous avez été député après avoir connu cette situation de pauvreté. Est-ce que pour que les choses changent, il faudrait qu'il y ait davantage de députés en juin 2022 qui savent ce que c'est que de vivre avec de faibles revenus?
Je pense en tout cas qu'il faudrait qu'on les écoute plus. Qu'on écoute plus les associations, les gens qui travaillent sur le terrain. Mais je pense surtout qu'il faut... Plus j'avance dans la réflexion sur ces sujets-là, plus je me dis qu'il faut rebattre les cartes complètement. Il faut remettre le système à plat et essayer de comprendre comment on peut faire quelque chose de global, pour une fois. Alors, il y a un responsable que je cite dans mon livre qui dit on a 30 ou 40 années de retard sur la lutte contre la pauvreté en France, et c'est un peu vrai. Je voyais, moi, dans ce qu'on avait fait en tant que parlementaire, quand on avait fait le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, il y avait une foule de dispositifs. Et on cherchait simplement à améliorer les dispositifs, à les rendre plus pertinents, plus efficaces. Mais je crois qu'il faut changer de la manière de voir. Il faut concevoir une autre manière de considérer notre société, sa protection sociale, la répartition des richesses et la lutte contre la pauvreté. Et il faut le faire d'une façon globale. Et je dirais, ça commence par le logement. La première étape, c'est de trouver un logement pour tout le monde, un logement décent. Peu importe si les gens sont en capacité au départ de l'assumer ou pas, c'est la première chose. Et une fois qu'on a ça, eh bien, il y a un suivi social en même temps, etc. Vous voyez, repensez globalement la chose. Si tant qu'on ne fera pas ça, on trouvera des formules super intéressantes, je vous dis. Il y en a dans la campagne actuelle. Mais quand je gratte un peu, elles apportent une solution à une partie du problème, mais elles n'envisagent pas la chose globale. Et donc, on se reverra dans quelques années avec un système qui sera encore dégradé, forcément.
Merci Michel Pouzol. Je rappelle que vous êtes ancien député et que vous venez de publier le livre « La pauvreté, une fatalité ?» aux éditions Christine Bonneton. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.